baise, souffles-y qu'il se torde, une ardente fanfare. Église avec l'encens que toutes ces maisons sur les murs, quand berceur d'une bleue éclaircie, le tabac sans parler roule les oraisons, et l'opium puissant brise la pharmacie. Robes et peaux, veux-tu lacérer le satin et boire en la salive heureuse l'inertie? Par les cafés princiers attendre le matin, les plafonds enrichis de nymphes et de voiles, on jette aux mendiants de la vitre un festin. Et quand tu sors, vieux dieu, grelottant sous tes toiles d'emballage, l'aurore est un lac de vin d'or. Et tu jures avoir au gosier les étoiles, faute de supputer l'éclat de ton trésor, tu peux du moins t'orner d'une plume, accompli, servir un cierge au saint en qui tu crois encore. Ne t'imagine pas la terre s'ouvre vieille à qui crève la faim. Je hais une autre
il y a violence dès lors que je ne fais pas participer l'autre à l'élaboration de mon propre discours. Eric Veil. Canal Sud 92 de Le Monde et tout ce qui arrive. Canal Sud 92 de Le Monde et tout ce qui arrive. Thank you. J'avais en un temps relativement court pensé faire une émission sur ces saluts humains qui empoisonnent la planète, comme on entend dire très souvent, auteur de tous les maux, en oubliant au passage certains autres fauteurs de troubles, la Russie, Israël et l'ensemble des pays occidentaux qui entendent être les moralistes d'aujourd'hui, qui décident d'une élection, qu'une élection est bonne ou pas, que tel dictateur est utile ou pas, qu'on garde ou qu'on déboulonne, politique postcoloniale, ça s'appelle. Signaler le sondage réalisé par l'Institut Gallup auprès de 70 pays pour savoir quel est le pays qui menace le plus la paix dans le monde. Pas besoin d'avoir fait de longues études pour savoir que ce sont les États-Unis. Même les Australiens pensent que les États-Unis, ça craint. Le veto sans discernement et automatique, ça use toute crédibilité. J'avais donc envie de faire une émission qui parlerait de ce faux problème, qui s'appelle l'islam, et qui en masque beaucoup d'autres, plus importants. L'islam, faux problème, d'où il sort ça? Celui qui parle au micro, l'expert en rien et le spécialiste en tout.
Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien.
Oh, que non! Bon à rien, mais ce serait encore pire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
D'abord, une analyse simple de ce que l'on voit et l'on entend. Et ce dont on se rappelle de l'histoire, de nos lectures, et de l'effet des battements d'ailes du papillon du temps, et des dominos, et de leur chute. Une analyse simple, effectuée sans trop d'efforts, parce que l'islam n'explique rien. Il n'est qu'un épouvantail commode. Après tout, ce n'est qu'une religion. Et les religions, c'est bien connu, ça ne tue pas. Ah ah, bien ri, ça suffit. Donc, ce que je fais quand je commence à élaborer une thèse, je vais vite voir ce que disent ceux qui ne sont pas mes amis et qui n'ont pas besoin de raconter n'importe quoi ou de faire peur pour être élus. Tiens, pourquoi pas un ancien de la CIA? Pourquoi pas un Graham Fuller? Peut-être un frère de Samuel? Tiens, qu'est-ce qu'il disait déjà, Samuel?
Vous avez l'air seul.
What did he say?
Alone. Just an American, can't talk
English. What's
happening? What's he doing? Who are you? What are you doing?
I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil.
Ce monsieur Samuel Fuller, c'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal.
Coup de l'air, c'est bien.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. The chef, he wants to know exactly what his movie is.
Oh. Well, a film is like a battleground.
C'est comme une bataille, un film.
Yes. Love.
L'amour.
Hate.
La haine.
Action.
L'action.
Violence.
La violence.
Death.
Et la mort.
In one word, emotions.
En un seul mot, c'est l'émotion.
Ah.
Alors, abandonnons Samuel Fuller, qui, malgré tout, indirectement parle du monde et pense le monde, et revenons à un Graham qui vient de sortir un livre qui s'appelle A World Without Islam. Un monde sans islam. Qu'il conclut de cette manière. Même s'il n'y avait pas eu une religion appelée islam, ou un prophète nommé Mohammed, l'état des relations entre l'Occident et le Proche-Orient, aujourd'hui, serait plus ou moins inchangé. Cela peut paraître contre-intuitif, mais met en lumière un point essentiel. Il existe une douzaine de bonnes raisons, en dehors de l'islam et de la religion, pour lesquelles les relations entre l'Occident et le Proche-Orient sont mauvaises. Les croisades, une aventure économique, sociale et géopolitique occidentale, l'impérialisme, le colonialisme, le contrôle occidental des ressources du Proche-Orient en énergie, la mise en place de dictatures pro-occidentales, les interventions politiques et militaires occidentales sans fin, les frontières redessinées, la création par l'Occident de l'État d'Israël, les invasions et les guerres américaines, les politiques américaines biaisées et persistantes à l'égard de la question palestinienne, etc. etc. Rien de tout cela n'a de rapport avec l'islam. Il est vrai que les réactions de la région sont de plus en plus formulées en termes religieux et culturels. C'est-à-dire musulmans, ou islamique. Ce n'est pas surprenant. Dans chaque grand affrontement, on cherche à défendre sa cause dans des termes moraux les plus élevés. C'est ce qu'ont fait aussi bien les croisés chrétiens que le communisme avec sa lutte pour le prolétariat international. Alors, je vous engage à lire cet article du Monde diplomatique, pour en finir vraiment avec le terrorisme, qui fait contrepoint au livre de Netanyahou, Terrorisme, How the West Can Win. Terrorisme, comment l'Ouest peut gagner. Qui montre effectivement qu'il y a un problème de compréhension du côté des politiques de tout bord. Et puis, je me suis dit que merde. Ce qui m'intéresse, c'est de la poésie. Ce qui m'intéresse, c'est la poésie, le bruit, la littérature et toutes ces sortes de choses qui rendent inouïes, voire inaudibles, les nuits sur Canal Sud.
Fallait-il alors, parler de musulmans modérés ?
Je suis ce que vous voulez.
Prétendu parler de
mais
musulmans
c'est pas la de dire.
Fallait-il parler de musulmans pas, intégristes ? Ou d'islamistes français ? Aurait-on dû parler d'ennemis de l'intérieur ? Fallait-il parler de terroristes ? Ou de djihadistes ? Ou de causes nationales ? Fallait-il parler de jeunes arabes ? Fallait-il seulement parler de jeunes ? Ou de jeunes français, ou de jeunes des banlieues, ou de jeunes désemparés. Fallait-il parler de jeunes de la troisième génération ? Aurait-on dû parler de génération perdue ? Ou bien de génération sacrifiée ? Aurait-on dû parler de l'immigration maghrébine ? Ou de français d'origine immigrée ? Ou d'immigrés tout court ? Aurait-on dû parler de l'immigration ? Parler des Français de confession immigrée. Aurait-on dû préciser de Français des banlieues d'origine maghrébine ? Aurait-on dû parler de jeunes racailles ? Ou bien de racailles tout court ? Aurait-on dû parler de Français de confession racaille ? Ou de racailles de France ? Ou de la communauté racaille ? Fallait-il parler de Français d'origine française ? Ou de Français de souche, ou de Français de culture arboricole, arborigène, autochtone. Aurait-on dû parler de Français de confession française, ou de jeunes Français désœuvrés, ou de jeunes anarchistes. Aurait-on dû parler de Français républicains, ou de la République française, ou de la tradition laïque. Aurait-on dû parler des valeurs de la laïcité, ou de laïcards d'origine républicaine, ou de bouffeurs de curés. Aurait-on dû parler d'alimentation, de nourriture française, parler des origines contrôlées. Fallait-il parler de la viande halal, ou de Français d'origine bovine, ou de la communauté bovine française. Aurait-on dû parler du sentiment grégaire, ou de la ségrégation, de la douleur animale, ou des conditions sanitaires de vie et de mort. Fallait-il parler d'origine ? Aurait-on dû parler d'hommes de couleur, ou d'origine ethnique, ou de black, ou de beurre, de rebeu, ou de toubab ? Fallait-il parler de goy, parler de négro, parler de singe, parler de boukak, ou de nyakwe, ou de Bachibouzouk ? Aurait-on dû parler de Bougnoul, de Tublan, de Biko, de Bamboula ? Fallait-il parler de Youpin, de Feuge, de Souchien ? Parler de Melon, de Face de Craie, de Youtre, de Félouze, d'Ajrab ? Aurait-on dû parler d'hommes et de femmes ? Fallait-il parler d'hommes d'origine masculine ? Ou de femmes de confession féministe. Aurait-on dû parler de féminité à la française, ou de française tout court. Fallait-il parler de féminité intégriste, ou de machisme de culture latine, ou de la domination sexuelle latente, ou de l'attente désespérée de sexe. Fallait-il parler d'amour, ou de rapports conjugaux, ou de violences domestiques, ou de sentiments réprimés. Aurait-on dû parler de démographie, ou de démocratie, parler d'invasion barbare, parler de civilisation, parler de culture gréco-romaine, parler d'Occident, de fantasmes. Fallait-il parler de la peur, parler du désir, parler de la part de peur dans le désir, parler du désir que le monde aille à sa perte? Aurait-on dû parler de la perte, parler de l'impossibilité de nommer, parler de l'impossible pour? Aurait-on dû parler pour ne rien dire, parler pour continuer à établir le contact, parler pour échanger des paroles, pour dire le temps qu'il fait, pour dire qu'on se parle? Aurait-on dû parler tout court?
On ne peut pas parler indéfiniment à sa tribu. Nos différences à l'intérieur de nos tribus ne sont que sur des détails. On ne peut pas parler indéfiniment à sa tribu sans que jamais ce discours se retrouve sur TF1 ou autre BFM, qui détruisent à grande vitesse l'esprit critique, le discernement et l'inévitable mise à distance qui seul permet de comprendre ce qui se passe, ou si ce n'est pas possible, de dire des conneries. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ce qui se résume par la cinglante réplique de l'inspecteur Harry.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
J'étais à me dire que ce qui manquait, c'était une parole politique, qui venait de cette frange ghettoisée, selon Valls en tout cas, à qui un jour on a confisqué la parole, ou peut-être même qu'ils n'ont jamais eu la parole. Quand l'actualité a montré que ce gouvernement, c'est vraiment la crainte, une expulsion musclée de ce qu'on peut appeler un camp de réfugiés, l'arrestation arbitraire de Pierre Stamboul pour avoir assassiné sa femme, et la présence de celle-ci bien évidente, n'arrête pas la dévastation policière. Nous sommes tout le temps en train de parler à leur place. De la frange ghettoisée, bien sûr, hein. Et très, pas à la place du gouvernement, ça serait quand même une drôle d'idée. Nous sommes tout le temps en train de parler à leur place, et très souvent ce qui est pire de leur place, comme si nous pouvions être dans leur tête. Je me rappelle vaguement une phrase de Yamina Benguigui du temps de sa splendeur, qui interrogeait ses parents en ces termes: que vous ont-ils fait pour que vous vous taisiez, pour que vous n'ayez rien à dire sur votre passé, que vous sembliez ne pas avoir d'histoire? Et je rajoute, ils n'ont pas de présent, mais du futur. Et ça, c'est intolérable au-delà de tous les clivages, de toutes les tentatives d'explication, de toutes les foresteries. Je fais tout de même partie de ce putain de siècle qui a empêché Nina Simone de faire une carrière de concertiste classique parce qu'elle était noire. Peut-être pour notre plus grand bonheur, mais pour le sien. Qu'en a-t-il été? Je suis noir, certes, mais je ne m'appelle pas Obama. Je suis ce que vous voulez.
Trying to save souls. cinnamon, where you gonna run to? Oh, cinnamon, there's nowhere to run to. The Lord won't help you, and the devil don't want you. So
je m'interrogeais sur cet antisémitisme qu'on tient à affubler sur tout le monde, et surtout sur l'extrême gauche ou les anarchistes. Moi, je n'en sais rien pour les autres, mais pour moi, je ne me considère pas comme antisémite. Mais c'est commode sans doute de se définir soi-même. Mais c'est encore plus commode pour les autres de définir quelqu'un avec des critères mouvants, surtout quand on a tendance à tricher.
Pourquoi vous appelle-t-on Harry, cher Renard ?
À cause d'un trait de caractère de notre ami. Il n'a pas de préférence. Il déteste tout le monde, les juifs, les métèques, les angliches, les irlandais, les négros, les chintocs, les japs. Faites votre choix.
Et qu'est-ce qu'il pense des mexicains ?
Il va vous le dire.
Les pires de tous les métèques.
Comment ça va ?
Si par hasard on prend comme référence le CRIF, c'est sûr, je suis bon. Surtout depuis ces 20 dernières années où le CRIF, qui n'est pas plus représentatif que n'importe quel conseil, s'est aligné sur le Likoud et soutient toutes les actions et exactions d'Israël. Effectivement, je serai antisémite, puisque tout est antisémite, dès qu'on parle négativement de quelque chose qui touche à Israël. Alors, il y a eu cette soirée à Toulouse autour du thème antisionisme, antisémitisme, à qui profite l'amalgame, perturbé par le hacker Hulkan, vous savez, le créateur du site au doux nom de viol vocal. Tout un programme. Les mots ne sont jamais employés au hasard, et je ne crois pas que je parle de vocal. Voilà la seule chose qui a été débattue. La guerre que mènent les dirigeants israéliens contre le peuple palestinien n'est ni raciale, ni religieuse, ni communautaire. C'est une guerre coloniale. Il faut dire les mots sur ce que subissent les Palestiniens. Occupation, colonisation, discrimination, apartheid, nettoyage ethnique, crimes de guerre, critique d'Israël est antisémite. C'est leur ultime défense pour continuer à violer le droit international. Le sionisme n'est pas seulement criminel contre les Palestiniens, il est suicidaire pour les Juifs. Il s'est construit contre toutes les traditions juives laïques et religieuses. Il manipule l'histoire, la mémoire et les identités juives. En prétendant représenter toutes les Juifs, il favorise les confusions. Il ne combat pas l'antisémitisme, il le favorise. Pour toutes ces raisons, l'Union juive française pour la paix soutient totalement l'appel palestinien au boycott contre l'État d'Israël et ses colonies.
Thank you.
pour se faire traiter. Antisémite. Un soir,
je suis sergent-chef et je servais au bataillon Kharou. C'est le bataillon qui est posté à Naplouse en général, qui fait partie de la brigade 900, Khativat Chamot. Quand je suis arrivé au bataillon, c'était une époque où il y avait pas mal de Palestiniens qui jetaient des bouteilles incendiaires, Bakhtabisti. Il y avait une compagnie qui terminait son parcours, et je me souviens que leur commandant leur disait « Visez au pied, touchez au ventre. Trevel Raglaim, te fesseres la bête. » J'ai entendu dire ça. C'était sur l'axe entre Ganim et Kadim. Il leur disait ça, même pour des jets de pierre. Visait au pied, touchait au ventre.
Un soir, j'écoutais France Culture, un atelier de création, et j'entends avant la diffusion de l'émission un commentaire surréaliste et complètement abscons. Et j'entends avant la diffusion de l'émission un commentaire surréaliste et complètement abscons. Vous pouvez même enlever l'abs.
J'étais sergent et quelque chose chez les Palestiniens. Passait pas mal de temps à Hevron. Gamin, et on lui disait « Hey, Jib el Khoubez, amène du pain » ou des trucs comme ça. On lui donnait l'argent et il ramenait la monnaie. Je me souviens, à l'époque, je trouvais qu'ils étaient très serviables. Après des années, je compris qu'ils le faisaient parce qu'ils avaient peur de nous. Parce que si tu as 10 ans et qu'un soldat t'appelle et te demande d'aller faire ses courses, alors bien sûr, tu as peur qu'il te fasse quelque chose si tu refuses, alors tu le fais.
De la disciple pure, semble-t-il. Un soir, j'écoutais France Culture, un atelier de création, et j'entends, avant la diffusion de l'émission, un commentaire surréaliste et complètement abscons. Vous pouvez même enlever l'abs. Donc il est précisé que ce que nous allons entendre n'engage en rien France Culture et la France. C'est moi qui rajoute la France. Je n'avais plus les termes exacts de ce commentaire quand j'ai écrit, mais je les ai retrouvés. Sauf que c'était la première fois. En fait, voilà la déclaration. Elle n'est ni plus dramatique, ni moins que ce que j'ai commencé à raconter. Les ateliers de création radiophonique ont passé commande à Simone Bitton d'un essai radiophonique composé à partir de ses témoignages. Cet essai ne constitue pas, évidemment, une prise de position de France Culture qui, par ailleurs, se soucie dans ses émissions de documenter et de contextualiser le conflit du Proche-Orient.
Une fois, on a attrapé un garçon qui avait jeté des pierres. C'était un petit garçon, 11 ans, 12 ans. Le commandant a dit qu'il fallait lui donner une leçon. Alors, on l'a enfermé dans les toilettes. Il est resté toute la journée dans les toilettes. Et de temps en temps, il y avait un soldat qui entrait et lui enfonçait la tête dans les toilettes. Je m'en souviens très bien. Ce soldat, c'était un copain de ma compagnie. Il lui tapait la tête contre la lunette des toilettes. Et je ne sais pas ce qu'il lui en fait encore. Je me souviens de cet enfant. Je me souviens comme il pleurait. Il devait être en état de choc de se retrouver aux mains de l'ennemi sioniste, avec des soldats qui allaient le tuer parce qu'il avait jeté une pierre. C'était horrible. Mais je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je pense autrement, mais à l'époque, il y avait une atmosphère de folie. Tu comprends? C'était comme ça là-bas. C'était comme ça.
En fait, voilà la déclaration. Elle n'est ni plus dramatique, ni moins que ce que j'ai commencé à raconter. Les ateliers de création radiophonique ont passé commande à Simone Bitton d'un essai radiophonique composé à partir de ses témoignages. Cet essai ne constitue pas, évidemment, une prise de position de France Culture qui, par ailleurs, se soucie dans ses émissions de documenter et de contextualiser le conflit du Proche-Orient. En soi, rien de bien grave et de bien nouveau dans cette déclaration. Et pourtant, c'est la seule fois où j'ai entendu cette mise en garde par rapport à une prise de position. Même pas quand Finkielkraut a invité Éric Zemmour. Pas plus quand on a une émission critique sur les prisons ou l'hôpital psychiatrique. Surtout que cette émission n'est pas spécialement une prise de position, mais un constat fait de témoignage. Alors, je vous engage à écouter Briseur de silence de Simone Bitton pour vérifier que cette nuit-là, je n'ai pas déliré.
Un jour, c'était en juillet 2002, Je vis que la base s'était remplie de canapés et de fauteuils. Il y en avait partout, dans les bureaux des secrétaires, dans les chambres des officiers, dans les chambres des combattants, même dehors. Je demandais à un soldat de la compagnie d'où venaient tous ces canapés, et il m'a dit qu'il y avait eu une opération à Khan Younes, un dynamitage d'ateliers clandestins, et que les canapés avaient été confisqués dans les maisons des Palestiniens qui habitaient dans le quartier. Ils les avaient empilés sur un camion militaire, une Dana, et ils les ont ramenés à la base. C'était l'ordre de leur commandant, et aucun soldat n'a protesté.
Genre de détail qui me pousse à penser que la contextualisation n'est pas toujours très honnête.
On utilisait des boucliers humains. C'est-à-dire, avant d'aller arrêter un type, d'abord on frappait à la peau du voisin. Ça s'appelle Noal Shachen, la procédure du voisin. On va chez n'importe quel voisin, une ou deux maisons à côté, n'importe quelle porte, c'est le commandant qui choisit. Et on amène le voisin avec nous. En fait, on l'amène devant nous. Il avance avec un fusil dans les dos. Et on va comme ça jusqu'à la maison où on doit faire l'arrestation. Quand on arrive chez les suspects, c'est le voisin qui fait tout. Il frappe à la porte, il lui crie de sortir. Et pour la perquisition, c'est lui qui passe les premiers, qui ouvre les portes de chambre. Comme ça, s'il y a quelqu'un là-bas qui veut tirer sur nous, en fait, il va tirer sur son voisin. Il sert de bouclier, tout simplement. Ça s'appelle la procédure du voisin, Noal Shachen. Et je l'ai fait plein de fois en plus. À un moment, c'était interdit de le faire, mais ensuite, ça a recommencé. Et je suis sûr qu'ils le font toujours.
Alors dire que nous dénonçons les occupations et la colonisation, la politique du Conseil de sécurité, parce qu'elle n'applique jamais les résolutions contraignantes de l'ONU. Que le hochet de la guerre est agité par le gouvernement de droite radical d'Israël pour régler les problèmes intérieurs et se faire une assise électorale sûre. Nous sommes bien sûr, vous l'aurez compris en écoutant cette émission, plutôt sur la position de l'Union, de l'analyse et de la position de l'Union des Juifs de France pour la paix, qui est bien sûr diabolisée par le CRIF, comme par exemple Marek Alter, qui parle de ceux qui exhibent leur étoile jaune pour condamner Israël. Alors, dire tout ce que je viens d'énoncer ne nous place pas tout de suite comme antisémites, mais en bonne position pour l'investiture. Voilà notre affaire réglée. Le problème est que je ne vois pas bien l'argumentaire. Si je dis que je suis contre l'intervention de la France en Centrafrique, vais-je perdre ma nationalité, être frappé d'indignité nationale et condamné pour porter atteinte au moral des troupes de la France? Je ne crois pas. Je serai classé parmi ceux qui ne comprennent rien, les pacifistes benets ou je ne sais quel qualificatif eux amènent, mais jamais qu'il faut que je foute le camp. Moi, je vais vous dire ce que je pensais. Je pensais que l'antisémitisme était un acte contre des personnes, c'est-à-dire comme le racisme, porter atteinte à une personne, à son intégrité, en fonction de ses diverses appartenances ou aspects physiques. Je ne me suis jamais dit qu'il y aurait un État qui serait exempt de critique, et quand on le qualifierait d'État voyou, on ferait acte d'antisémitisme. Bon, on fera avec. Parce que moi, en seconde, j'ai vu Une nuit et brouillard. Et après, j'ai lu Primo Levi. Et je crois que j'ai compris. D'ailleurs, rappelez-vous, mais peut-être ne le savez-vous pas, mais Nuit et brouillard, la chanson de Jean Ferrat, était interdite en 1963 pour ne pas gêner les Allemands avec qui nous devions faire l'Europe.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs sombres battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de route, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux qu'ils aient essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous goûtaisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nous aimait tremblant dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Le film choix de Lanzmann, très édifiant sur ce que fut cette époque. Mais Lanzmann participe à l'instrumentalisation de la Shoah par la droite israélienne. Je vous renvoie aussi à la naissance du peuple juif de Shlomo Sand, qui est, n'en doutons pas, un juif antisémite.
Savons aussi que même ce semblant de critère dans la discrimination entre ceux qui étaient jugés aptes et ceux qui ne l'étaient pas ne fut pas toujours appliqué, qu'un système plus expéditif fut adopté par la suite. On ouvrait les portières des deux côtés sans avertir les nouveaux venus, ni leur dire ce qu'il fallait faire. Ceux que le hasard faisait descendre du bon côté entraient.
Qui trouvait le soir en rentrant
à la chambre à gaz.
La table mise et des visages amis.
Âgé de 3 ans. Quand c'était évident aux yeux des Allemands, la nécessité historique
de celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un nuit ou pour un nom. Considérez c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, Abonnez-vous. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous.
Donc je suis informé, et je sais ce qui s'est passé, et je sais que ça ne se passera jamais plus sous cette forme. On a vu que l'exemple de la Shoah n'est pas efficace pour que la pensée génocidaire soit éradiquée. Je suis juif, mais je ne m'appelle pas Netanyahu ou Ayelet Shaked. Oui, je suis antisémite, si vous voulez, mais je ne m'appelle pas Dieudonné Soral. Je suis ce que vous voulez, mais ne me le dites pas.
Menschenfurt nach Moskau. Der Weg eines normal denkenden progressiven Menschenfurt, nicht nach Palästina. Ich kann ruhig sagen, dass Walter Benjamin nicht nach Palästina fuhr, das habe ich erreicht. Ich kann ruhig sagen, dass Walter Benjamin nicht nach Palästina fuhr, das habe ich erreicht. Einmal hatte ein Lehrbuch der hebräischen Sprache, als ich es hatte, das Hebräisch lernen, die Heilige nach Palästina fahren. Sein Heuschalen, das der Kinder, der gesicherte Existenz. Menschenfurt nach Moskau. Der Weg eines normaldenkenden progressiven Menschenfurt nicht nach Palästina. Ich kann ruhig sagen, dass Walter Benjamin nicht nach Palästina fuhr, das habe ich erreicht. Ich kann ruhig sagen, dass Walter Benjamin nicht nach Palästina fuhr, das habe ich erreicht.
Il y a l'islamophobie. J'ai l'impression de chanter ces gens-là depuis. L'islamophobie, antisémite, antiraciste, antisémite.
D'abord,
le vocabulaire comme le repoussoir de l'argumentation. Alors là, l'islamophobie. Alors, le pendant de l'antisémitisme, enfin, je suppose que c'est comme ça qu'on le pose. Pour faire contrepoint à cette facilité avec laquelle on se traite, on se fait traiter d'antisémite. Donc ceux qui traitent les autres d'antisémites sont des islamophobes. Donc ceux qui traitent les autres d'antisémites sont des islamophobes. Et le tour est joué. Et au nom de cette islamophobie, on défend n'importe quoi ou n'importe qui, mais qu'on ne s'y trompe pas, ces références religieuses sont des leurres qui sont acceptables. On ne peut pas supporter le traitement fait aux femmes par toutes les religions. Elles sont toutes dans le sens de la domination masculine. Mais comme tout ce que produit l'homme, y en a-t-il une meilleure que l'autre? Non. C'est pareil. C'est essentiellement ce que font les peuples, les sociétés, où les religions se vivent, qui ont pu parfois les faire évoluer. on croise un sémite dans la rue, sémite au niveau du physique, hein, le fils de Sam, il y a de grandes chances qu'il soit brun et supporte le soleil. Personne ne se dit, tiens, un sémite. Non, il y a de grandes chances qu'on le pense arabe. Et s'il est arabe, il est musulman. Simple, non? Donc j'y reviendrai à cette difficulté à nommer ce qui se passe. En fait, il y a un mot Sam qui décrit tout ce phénomène, c'est racisme. On dénie à l'autre d'être comme nous, ou à peu près. C'est-à-dire cet arabe qui nous a croisés est peut-être juif, ou chrétien, ou athée. Mais là, il ressemble à un arabe, donc il est musulman. Dans cette désignation autoréalisatrice, dans cette assignation à être ce que pensent les autres, il y a une partie du repli identitaire. Prenons un exemple trivial, une situation habituelle de notre quotidien, l'apéro. Bien entendu, l'apéro, c'est de l'alcool. Il y aura un certain nombre de gens, lors de cet apéro, qui ne boivent pas d'alcool. Un blanc aux yeux bleus, une femme, un arabe. Arabe est pris dans le sens des caractéristiques physiques, genre celle qu'utilise Charlie dans ses caricatures. Une arabe et moi, qui doit bien avoir un physique de métèque. Donc si on est arabe ou assimilé, et qu'on ne boit pas d'alcool, ce sera obligatoirement parce qu'on est musulman. Pour la femme, c'est parce qu'elle est enceinte. Et pour le blanc, c'est ses analyses et son taux de triglycérides et de gamma GT qui oblige à ne rien boire d'alcoolisé. Bref, islamophobie, ça ne veut pas parce que ça ne recouvre qu'une représentation édulcorée du rejet. En fait, si c'était un rejet de l'islam et des traditions qui l'accompagnent, il faudrait que l'on sache que notre voisin, celui qu'on croise dans la rue, est musulman. Ce qui a l'air plus évident que pour un catholique. Pour exemple, disons, nous, si on admet pareillement que porter un foulard signifie obligatoirement être musulman. Or, ce qu'on voit dans la rue, ce n'est pas si quelqu'un est musulman, mais on voit si quelqu'un est un arabe, toujours les critères physiques qu'utilise Charlie pour la caricature. Hein. Voit un arabe, un noir ou un pas comme nous. Et c'est ça qui n'est pas supportable. Pour certains. J'y arrive à supporter. Donc, et ce pas comme nous après, il est commode de lui affiger quelques caractéristiques, genre toi t'es musulman, toi t'es juif, toi t'es homo, pour déjouer le piège du rejet essentiellement des faciès. D'ailleurs, quand on croise un rom ou un gitan, s'oublie facilement le fait qu'ils sont chrétiens. D'où le mot racisme qui semble convenir. Mais bon, SOS racisme a fait un peu de mal au mot. Alors certains identitaires pensent qu'il vaut mieux communautariser le vocabulaire pour montrer qu'on est victime aussi. Et parce qu'on est comme ceci ou cela, mais pas victime comme les autres. Mais victime comme nous. Alors, si on était victime comme les autres, pour différentes raisons, comme Roger, on pourrait imaginer des actions collectives. Mais là, on est toujours victime pour soi. Alors, j'ai pensé un peu par rapport à certains types, que je me demandais si effectivement le mot serait tout simplement pas allophobe. Comme ça, on peut y mettre tous les autres, rejetons de la société. Tous les homos, les trans, les extraterrestres, les musulmans, les juifs, les noirs. Donc, ne soyez pas allophobes. La peur de l'autre. Je suis un autre, bien sûr, parce que je suis un autre épris et parce que j'aime les platitudes. Je suis un autre, mais pas n'importe qui. Je suis un autre, mais sans A majuscule. Je suis un autre et je suis comme tout le monde parce que personne n'est comme moi. Je suis ce que vous voulez et ne me le dites pas. Certainement très approximatif. Enfin, il est très approximatif. Mais bon, je tenais à donner. Il y a des chansons qui tournent autour de cette notion. Et c'est autour de la notion de l'Ubuntu, qui est une manifestation mythique de la bonté humaine en Afrique du Sud. Enfin, c'est exprimé dans tous les langages zoulou, bantou, etc. Et donc, avec un dicton qui lui est associé, qui est Ubuntu. Nguntu, Nakambuntu. Bon, je reprends parce que il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Umuntu, Ngumuntu, Gamantu. Je suis presque. Umuntu, Lugumundu Gabantu. Là, c'est presque ça, donc si la personne veut bien s'arrêter, je redémarre. Umuntu Gumuntu Gabantu. Ce qui pourrait vouloir dire quelque chose de cet ordre, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Ou alors, de manière plus littérale, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Mais quand même, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes, c'est très suffisant pour vivre ensemble. Alors, à remarquer que Nelson Mandela lui aura utilisé deux autres formules qui sont très liées à celle-ci, qui sont « Nous sommes les autres » et « Nous sommes donc je suis », qui dépasse très largement le cartésianisme un peu étroit de la France. « Nous sommes donc je suis, nous sommes les autres, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Nous sommes donc je suis, nous sommes les autres, je suis ce que je suis parce que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Nous sommes donc je suis, nous sommes les autres, je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous.
Yeah, yo. Oh. Yeah, yo. Chapel. Jabberwocky.